Bonjour à toi et bienvenue Kaizen. Merci d'avoir accepté cette interview dans le cadre de l'article intitulé Amour et BDSM, séparés ou associés. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ou vous présenter tous les deux puisque tu es en couple?
Oui, ben, bonjour Steve. Mais déjà, ben, je te remercie, hein, pour cette interview et de me donner l'opportunité de ben, partager cette passion. Ben voilà, ben, je m'appelle Kaizen, j'ai 48 ans, je vis dans le nord de la France et ben voilà, en termes de, je dirais, d'activité professionnelle, je suis dans l'informatique. Et donc je suis en couple avec ma soumise Yubi depuis 2019, qui vit dans le sud. Donc en fait nous avons, alors on peut dire une relation à distance, hein, parce qu'on vit à 400 km l'un de l'autre, mais on arrive à se voir assez régulièrement, donc à peu près tous les mois.
Comme vous viviez à distance, Yubi n'a pas pu participer à l'interview.
Voilà, ouais, avec grand regret.
Peux-tu expliquer aux auditeurs comment chacun d'entre vous est arrivé à s'intéresser au BDSM?
Ben, en fait, hein, on est arrivé un peu ben, fortuitement, hein, à s'intéresser au BDSM et en tout cas à pratiquer le BDSM. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que chacun de notre côté, on a eu, on dira, notre vie vanille pendant de nombreuses années. Je crois que j'ai pas précisé tout à l'heure, on a tous les deux la cinquantaine. Donc nous sortons tous les deux d'un mariage d'une vingtaine d'années. Suite au divorce et tout, nous nous sommes rencontrés. Et ben, vu qu'on vivait à distance, hein, vu qu'on avait une relation à distance, bon, c'était un peu compliqué, même si on arrivait à se voir régulièrement. Puis est arrivée la période du Covid, avec ces histoires de confinement, où en fait on était tous les deux ben, cloisonnés, hein, chacun chez soi, quoi. Et là, on n'a pas pu se voir plus régulièrement. Et là, on dira que la frustration commençait à vraiment à monter. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, de mon côté, dans mon ancien mariage, je dirais que le BDSM me titillait un peu, mais bah, je dirais, comme toutes les personnes vanilles et toutes les personnes ne connaissant rien du tout au BDSM, je pensais que cette activité était vraiment une activité assez extrême et n'était pas pour tout le monde, n'est-ce pas? Et du coup, suite, enfin, tu vois très bien ce que je veux dire, hein,
Oui,
dans...
très bien, oui.
Et en fait, suite au confinement, donc tous les soirs, hein, on s'appelait, hein, par téléphone et tout. Un jour comme ça, je sais pas, je pense que ce sont les hormones, hein, c'est le concentré d'hormones là qui a explosé. Et j'ai commencé comme ça à donner des petits ordres vraiment gentillets, quoi, pour Yubi. Et puis elle a commencé à jouer le jeu. Et puis de fil en aiguille comme ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Et puis là, on a commencé à rechercher sur Internet, qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis c'est là qu'on a vraiment mis le doigt sur le BDSM. C'est là où on a découvert que ben, finalement, le BDSM, c'était pas comme ce que le grand public pense tout de suite, les chaînes, les fouets et tout, mais ça pouvait commencer vraiment de façon légère, même par téléphone, et petit à petit augmenter, quoi. Et c'est comme ça, en fait, que, ben, voilà, je dirais, de jour en jour, de semaine en semaine et des mois en mois, eh ben, on est arrivé à devenir de vrais pratiquants BDSM. Yubi, elle n'a jamais été, dans sa vie vanille, elle n'a jamais été, curieuse du BDSM. C'est moi qui l'ai un peu, comme ça, initié, de façon improvisée. Je cherchais le mot. C'est comme ça qu'on est tombé dedans, quoi.
D'accord. Il y a une des questions que je voulais vous poser, c'était, pouvez-vous raconter votre rencontre? Mais en fait, la rencontre, finalement, par rapport au BDSM, n'a pas forcément d'importance, donc c'est une question que je ne vais pas vous poser, à moins que vous vouliez ajouter quelque chose à ce sujet.
Oui, je peux peut-être pour éclairer les auditeurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est donc, ben, comme je t'ai dit, hein, donc voilà, chacun a divorcé. Et puis, alors, je veux dire, bien sûr, on s'est tous les deux mis sur l'application de rencontre et on s'est rencontrés comme ça. Alors, on a fait un an de vie vanille et je me répète un peu. Et c'est à l'issue du Covid où en fait on n'a pas pu se voir. C'est de là que de vanille on a basculé en BDSM. C'est ce que j'aime dire, c'est que cette période de Covid a été très difficile pour nous, mais finalement on a gagné cette nouvelle vie donc de BDSM. Très sincèrement, si on n'avait pas eu ce Covid et ce confinement, on n'aurait jamais basculé dans le BDSM, en fait. Ça a été très étrange, quoi, mais voilà.
D'accord. Alors, comment décrirais-tu votre couple aujourd'hui par rapport au BDSM? Est-ce que ça a pris une importance, ou quelle importance, dans quelle proportion?
La proportion du BDSM dans notre couple, on dirait qu'elle est assez importante dans le sens où on en parle tous les jours, on tente de le vivre tous les jours, même si c'est très très compliqué avec la distance. Et on peut vraiment dire que ça fait vraiment partie de nous. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on est ensemble, ou même quand on n'est pas ensemble, déjà on discute de BDSM, on regarde s'il y a des événements BDSM à venir, donc sur le site fetlife.com. Et on sait que dès qu'on se retrouve, on se dit bon ben voilà quoi, on remplit notre agenda pour faire le plus d'événements possible ben, pour pouvoir vivre cette activité, cette passion quoi, cette relation BDSM. Voilà quoi. L'idée c'est que je dirais contrairement à d'autres couples ou plutôt contrairement à l'idée que les gens peuvent se faire d'une relation DS due à notre distance, c'est vrai que on n'est pas, on peut dire qu'on n'est pas à 200% dans la relation DS, domination-soumission, parce que des contraintes logistiques, des contraintes de temps font que c'est pas évident, quoi. Mais dès qu'on a l'opportunité, ben oui, tout de suite, on est dans nos rôles de dominant et de soumise, quoi.
D'accord. La question que j'ai envie de vous poser tout de suite, c'est, parce que vous en avez parlé depuis tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que vous ne vivez pas ensemble?
Alors, on vit pas ensemble en fait parce que Yubi donc elle a toujours eu sa vie dans le sud. Moi j'ai toujours eu ma vie dans le nord avec des enfants qui sont pas encore adultes. Ce qui fait qu'en fait logistiquement c'est pas possible quoi de déménager avec les enfants et de les emmener dans le sud. Aujourd'hui quoi c'est pas possible. On attend d'une part que les enfants grandissent et d'autre part ben, j'attends aussi de trouver un bon boulot quoi dans le sud. Ça aussi, ça joue pas mal sur les contraintes.
Ce qui fait que dans une
Mais
certaine mesure, vous avez fait passer vos enfants en priorité.
oui, tout à fait, ouais.
Tout à l'heure, vous parliez d'événements. Qu'est-ce que vous appelez événements pour que les auditeurs comprennent bien?
Alors, les événements, c'est donc sont qualifiés, nommés de munch ou de munch and play. Donc, en fait, ce sont des soirées organisées par des pratiquants BDSM. Il y a deux types d'événements, des munch dans lequel ou dans ces événements-là, on dira que tout le monde peut venir, que ce soit des personnes vanilles ou des pratiquants BDSM. On se réunit dans un bar, dans un restaurant, des choses comme ça. Et en fait, on est là juste pour discuter, pour échanger, et pour certains, ben, ils sont là pour discuter et découvrir le BDSM. Ça, c'est vraiment la partie publique dans laquelle on ne pratique pas le BDSM, on ne fait que discuter. Ça, ce sont les munchs. C'est sympa d'y aller, quoi, parce que voilà, on peut découvrir de nouvelles personnes et puis l'ambiance est vraiment sympathique. Et après, il y a donc un deuxième type d'événement qui sont les munch and play. Donc, il y a toujours une petite partie munch dans laquelle on se rencontre tous, on discute. Et en deuxième partie de la soirée, c'est la partie play où là, vraiment, on est là, ben, chacun a son ou sa partenaire ou même on peut découvrir, rencontrer de nouveaux partenaires hein, durant l'événement. Et là, on commence à jouer, quoi. Et c'est là que c'est intéressant parce que, donc moi, je fais des séances à ma soumise, je joue avec ma soumise. Parfois, il m'arrive de prêter ma soumise à un autre dominant pour qu'elle puisse vivre des expériences hein, BDSM que je ne pourrais pas lui offrir. Typiquement, je pense au shibari. En fait, je suis un très mauvais rigueur. Hein. Donc, le shibari, c'est l'art d'encorder. Je ne maîtrise pas du tout ça, donc je peux prêter ma soumise à un dominant qui va l'encorder comme il faut. Et il y a des fois, ben, c'est des dominants qui me prêtent leur soumise pour que je puisse les impacter durant une séance, bien sûr. Et voilà quoi. Et donc c'est vraiment une ambiance ben, joviale, on dira. Et franchement, j'invite ben, tous les curieux du BDSM à déjà d'une part participer à un munch. Pour justement voir que, alors là, donc je vais peut-être être un peu violent, quoi, mais vraiment s'apercevoir que les pratiquants BDSM ne sont pas des détraqués, ce sont des gens comme vous et moi. Et à l'issue des matchs, ouais, je les invite vraiment à venir voir dans les match and play parce que c'est vraiment, en tout cas pour nous, c'est ce qui nous a vraiment permis d'évoluer dans nos pratiques.
Qu'est-ce que vous appelez évoluer dans vos pratiques? Vous diriez que ça a donné un coup de boost d'une façon générale à votre sexualité ou c'est vraiment le BDSM qui vous a intéressé?
Pour les match and play, c'est vraiment le BDSM qui nous a intéressés et qui a fait évoluer notre pratique. Je prends un exemple. C'est par exemple la pratique de l'impact au fouet. Okay. Avant les événements match and play, bon, ben voilà, je dirais je jouais du fouet sur ma soumise, je l'impactais, je la fouettais, mais je n'ai pas vraiment augmenté l'intensité parce que voilà, ben, comme je débutais, on ne sait pas trop comment peut réagir la personne, on ne sait pas trop quelle résistance à la personne, et puis surtout, voilà, quand on ne sait pas jusqu'à quel point on peut augmenter l'impact. Et au cours d'une soirée BDSM, au cours d'une soirée match and play, quand on voit les autres jouer et on voit comment ils peuvent fouetter, là on se dit, ah mais oui, mais en fait c'est possible, c'est presque du mentorat quelque part, hein. C'est de voir faire les autres, on apprend ce qu'on pourrait faire. Si on n'a pas vu les autres faire quelque chose, on se dit c'est pas possible. Je prends un autre exemple, la pratique des aiguilles. Ben voilà, c'est bien de commencer des aiguilles à travers une soirée match and play parce qu'il y a des gens experts en aiguilles qui vont te montrer, oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut désinfecter, placer l'aiguille par-ci, par-là et tout. Et ça, c'est des choses, en mon sens, hein, c'est des choses que c'est assez compliqué à apprendre tout seul et même c'est assez, je trouve, hein, c'est assez risqué et dangereux de s'improviser comme ça, à appliquer avec des aiguilles. C'est bien de rencontrer des gens dans ces événements pour qu'ils puissent nous montrer comment faire les choses. Là, je parle du fouet, par exemple, de l'impact, je parle des aiguilles, mais aussi c'est pareil, hein, pour le shibari, pour toutes les pratiques. Le fireplay, c'est pareil, c'est dans les événements match and play qu'on a appris à jouer avec le feu. Et tout ça, si on était resté chez nous, sans fréquenter ces événements-là, bon, on serait resté aux menottes et au paddle. Tu vois, non, mais c'est vrai en plus, hein, tu vois un peu tu vois le tableau, quoi.
Très bien, très, très bien, très bien. C'était pas moqueur mon sourire, hein, évidemment. Enfin, mon rire n'était pas
D'accord.
moqueur. Hein. Je vois un autre intérêt à ces munchs, puisqu'on en parle, c'est que au-delà d'apprendre à faire, je pense qu'ils permettent aussi de dédramatiser. S'il y a bien des pratiques qui peuvent faire peur, ça peut être par exemple les aiguilles, hein, typiquement.
Oui, tout à fait. Mais c'est là où je parle d'apprentissage, parce que justement, bah, souvent l'inconnu et la méconnaissance génèrent la peur et génèrent aussi, bah, justement, des obstacles qui nous interdisent ou en tout cas qui nous bloquent à pratiquer, bah, telle pratique, quoi. Et c'est justement, bah, en apprenant des autres et en voyant comment les autres font, ça nous permet justement, bah, d'aller plus loin, d'évoluer, de vivre de nouvelles expériences. Et voilà, et effectivement, oui, comme tu dis, oui, ça enlève la peur, ça enlève les stéréotypes, ça enlève pas mal de choses, quoi. Ça débloque, ça déverrouille, et c'est comme ça qu'on évolue, quoi. À la base, on est des êtres sociaux, hein. Donc, pour évoluer, il faut être en relation avec les bonnes personnes, quoi. Si on reste cloisonné chez soi, pour moi, ça passe pas. On reste bloqué.
Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une vie normale, avoir mis,
Une
enfin,
vie
avoir
vanille,
préparé à
avant.
manger, voilà, la vie du quotidien, au BDSM? Est-ce que comment vous pratiquez? Comment vous passez de l'un à l'autre? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est bien séparé, cloisonné, ou est-ce que ça se vit comme ça au quotidien?
Alors déjà, quand tu dis ça se vit comme ça au quotidien, est-ce que tu parles donc d'une relation 24/7 ou
Peu importe comme qu'elle soit 24/7 ou pas, c'est comment vous deux vous la vivez.
D'accord. Alors, comment on la vit, donc comment on s'organise et comment ça se passe? En fait, on dira que donc quand on est ensemble, on dira sur une journée de 24 heures, plus de la majorité donc de la journée, nous sommes en vanille. Et en fait, on a entre guillemets un contrat tacite qui fait que si moi, comme ça, d'une minute à l'autre, j'ai envie de faire du BDSM, alors Yubi sera à ma disposition. Okay. Et pour passer donc pour faire du on-off, pour passer de vanille à BDSM, ben c'est bien simple. Dès que j'appelle Yubi, ça veut dire que là on passe en mode DS, en mode BDSM. Et ben là on commence. Et ben là on commence. Alors qu'est-ce que ça veut dire on commence? Ça veut pas forcément dire ben, tout de suite, boum, on sort le fouet ou quoi que ce soit. C'est juste que ben, à partir de là, elle est en position de soumise et moi en position de dominant et elle doit ben voilà quoi elle doit vivre enfin elle doit vivre elle doit continuer la journée comme ça quoi la journée ou le moment quoi l'heure qui vient les 2 heures qui viennent et
D'accord.
voilà ça c'est un peu compliqué à expliquer hein, peut-être je sais pas si je suis assez clair mais en tout cas ce que tu ta question à un moment donné c'était
Si, en
est-ce
fait,
qu'on a un code?
ça répondait bien. Ça répondait très bien à la question. Ma question était d'ailleurs pas forcément très claire. Quand tu dis position, il ne s'agit pas forcément d'une position physique, assis, debout, etc. On parle bien d'un état d'esprit, de la sensibilité du moment.
Tout à fait. Et tu dis bien le mot, c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment l'état d'esprit. Dès que je dis le mot Yubi, dès que je l'appelle par Yubi, ben voilà quoi. Voilà, on n'est plus vanille. Et c'est pas pour ça que c'est pas parce que je l'appelle Yubi que de suite parce que en plus c'est pas quelque chose qu'on fait c'est pas tout de suite ah je baisse la tête je souris plus et j'ai le dos courbé et tout ça enfin en mon sens hein, c'est un peu la caricature de la soumise quoi c'est juste ben voilà c'est voilà elle est soumise et voilà si j'ai envie de jouer avec elle bon en général si je l'appelle Yubi c'est que je veux jouer avec elle ben là elle a plus qu'à écouter Elle n'a plus qu'à obéir, pardon, à mes ordres.
Précisons que Yubi est son pseudonyme, son nom de soumise, et que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent en général en parlant de BDSM, c'est pas parce qu'elle est soumise qu'elle obéit indistinctement à tout et à n'importe quoi et qu'elle peut pas dire qu'à un moment donné, elle en a pas envie.
C'est tout à fait ça, oui. C'est-à-dire que voilà c'est toujours pareil hein, dans des aux yeux du grand public vanille on a l'impression que voilà la soumise c'est juste une je veux dire c'est juste un robot qui obéit comme ça quoi à la merci de son dominant non 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 c'est pas du tout ça c'est ok elle est soumise mais on reste quand même entre êtres humains je la respecte elle me respecte on fait des jeux je la pousse dans des extrêmes dans le sens je la pousse dans ses limites. C'est ce qui fait partie de nos jeux BDSM. Mais après, elle a tout à fait le droit à un moment donné de refuser ce que je lui demande. Et pour ça, on a le fameux safe word qui met fin au jeu ou qui ralentit le jeu, quoi, si ça va trop loin. C'est elle qui choisit sa position de soumise.
Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose à cette interview pour compléter tout ce que tu as déjà pu dire, soit pour toi, soit au nom de Yubi?
Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que, donc comme je l'ai dit là au début de l'interview, donc nous vivons une relation à distance, okay, même si on se voit assez régulièrement, donc tous les mois. Mais je veux dire que le BDSM, très honnêtement, a sauvé notre couple. C'est-à-dire que si on avait continué à vivre comme ça en vanille, je pense qu'une routine se serait installée. Et bah, en vivant à 4 heures de route l'un de l'autre, je pense que notre couple aurait explosé. C'est vraiment le BDSM et l'amour qui solidifient notre couple.
Alors, ma question
Voilà.
complémentaire, comment vous envisagez de voir votre couple évoluer dans les 5-10 ans à venir?
Alors ça c'est alors comment je le vois évoluer ben, dans les années à venir hein, je peux pas préciser le chiffre. Ben, moi déjà j'espère vraiment pouvoir déménager et vivre ma vie auprès de Yubi dans le sud. Et après, comment on voit évoluer notre couple? Ben, comme je disais avant, en fait, dû à la distance, on peut pas vraiment. On est beaucoup plus vanille que BDSM. Et je verrai notre couple évoluer en inversant en fait les proportions, qu'on soit beaucoup plus BDSM que vanille, si l'on pouvait vivre ensemble, tous les jours sous le même toit.
C'est votre souhait à tous les deux.
Oui, tout à fait, ouais. Parce que mine de rien, mais c'est pas évident quand on se revoit physiquement, donc après un mois d'absence, quoi. C'est pas évident. Il faut d'abord se réaligner et tout pour après vraiment profiter de cette relation, quoi, DS. Et du coup, si on vivait ensemble, ce serait beaucoup plus simple.
En augmentant la dose de BDSM, vous n'avez pas peur de vous lasser?
Non. Et non. Et pourquoi? Ben parce que justement, c'est tellement infini, le BDSM, que bah, toutes les pratiques, toutes les activités, toutes les expériences que l'on peut vivre en BDSM, c'est tellement infini que non, 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 ah non, non, j'ai pas peur de me lasser, la routine, non, il n'y en aura pas. Voilà, c'est vraiment non, 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 ça, je n'ai aucune crainte pour ça. Je voudrais rajouter un autre truc.
Oui.
Le BDSM, donc dans un couple, demande, ça c'est l'oxygène hein, du BDSM, ça demande beaucoup de confiance et de communication. Et ça c'est vraiment quelque chose que finalement je n'avais jamais vécu dans mes précédents couples. Je ne dis pas que dans mes précédents couples il n'y avait pas de communication ni de confiance, mais je trouve que en vivant donc dans un lien BDSM, dans un lien DS, la confiance et la communication requises, elle est puissance 10. Et vivre comme ça dans cet espace-là de confiance et de communication, c'est vraiment quelque chose qui fait que rien que pour ça, faut aller dans le BDSM.
Mais c'est du prosélytisme où je ne m'y connais pas. Cela dit, ça rejoint une chose qui m'a été dite par une femme, une soumise dans une autre interview, qui me disait que la relation qu'elle vivait actuellement était pour elle et de loin la plus saine qu'elle ait jamais vécue par rapport à ses expériences antérieures.
Ça, je comprends tout à fait, ouais. Parce que, ben justement, parce que pour ça, y a plus de zone d'ombre, il y a plus de non-dit. C'est faut vraiment être clair dans ce qu'on fait, dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on pense, pour justement que chaque membre du couple soit en sécurité.
Voici qui clôt donc cette interview. Je te remercie Kaizen et Yubi qui n'est pas présente, mais qui est partie prenante de cette interview. Donc je vous remercie tous les deux d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'apporter ainsi votre pierre à l'édifice fragile de la culture et de la tolérance.
Eh bien, écoute, Steve, moi, je te remercie pour cette interview. Je te remercie pour l'intérêt que tu as porté pour notre couple et pour ta gentillesse et ta sympathie.